qu'ils se croyaient des hommes n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Il voulait simplement ne plus vivre à genoux.
Le jeudi 5 avril, après des jours d'incertitude, les portes du camp de Ravensbrück s'ouvrent pour Noëlla et les 300 premières femmes françaises libérées. Le 9 avril 1945, au soir, les 300 déportés descendent des camions blancs marqués de grandes croix rouges qu'ont conduits des soldats canadiens. Enfin, dans cette petite ville suisse voisine de Constance, Noëlla Rouget et ses compagnes sont véritablement libres.
Ces journées d'avril 1945 ont eu un tel caractère d'exception que le souvenir qui en subsiste en nous est surtout celui d'une exaltation intense dont nous avons peine à extraire tel ou tel détail. Le premier réveil dans la salle de gymnastique au son des cloches, dont depuis 2 ans je n'avais plus entendu l'appel, symbole de notre retour dans un monde plus humain. Un petit nécessaire de beauté, rouge à lèvres, crème, parfum, que je me sentais trop faible pour utiliser, mais qui cependant me comblait parce qu'il signifiait que c'en était fini de notre vie de numéro et que nous redevenions des femmes.
Cependant, Noëlla dit aussi sur une note plus triste.
J'étais mourante, et quand on nous a rapatriés via la Suisse, j'ai demandé à regagner la France, ma terre angevine natale, pour mourir en paix.
Le 16 avril 1945, elle regagne Angers. Elle prévient son père.
Voilà comment je serai habillée. Sinon, tu ne vas pas me reconnaître. Je ne pèse plus que 32 kilos. C'est dans cette difficile atmosphère que Noëlla va prendre réellement conscience qu'Adrien n'est plus là, en découvrant la lettre qu'il lui a laissée au matin de son exécution.
Angers, le 13 décembre 1943. Mon grand amour, je te quitte pour toujours. Comme j'aurais voulu vivre avec toi, contre ton cœur, t'aimer passionnément avec toute mon âme. Puisque je ne suis plus, il faut que tu m'oublies, ma chérie, que tu vives. Notre grand amour est fini. Il faut que tu guérisses ta plaie, que tu aimes encore. Ne fais pas un mariage d'oraison surtout, ma Noëlla adorée. Aime ton mari. Sois heureuse, très heureuse. Fais-le pour moi. Je meurs en chrétien. J'essaie de croire en Dieu. Prie pour moi, pour que nous puissions vivre heureux. Très heureux, longtemps, au ciel. Je t'embrasse avec tout mon cœur, mon grand amour, mon seul amour. Adieu, adieu, Didi.
Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant.
Ainsi, Adrien a rejoint Missak Manoukian, le poète d'origine arménienne, résistant des FTP Moy, franc-tireur et partisan, main-d'œuvre immigré, un des héros de l'affiche rouge, lui qui avait écrit à sa Mélinée « Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse ». Avant d'être passé par les armes au Mont-Valérien le 21 février 1944. Combien sont-ils, ces fusillés, à avoir livré un tel testament à leur amour?
À l'été 45, à l'initiative de son amie Geneviève de Gaulle, on propose à Noëlla un séjour en Suisse dans le cadre des convalescences que l'Association des déportés et internés de la Résistance, la DIR, met sur pied. Elle s'y rend avec sa compagne de détention et de déportation, Yvette Marchand. Quelques mois plus tard, elle fait la connaissance d'un Genevois, André Rouget, alors âgé de 26 ans. Les deux jeunes gens nouent une relation amoureuse. Ils se marient le 9 août 1947 et s'installent dans un quartier résidentiel de Genève. Quelques années plus tard, en 1950 et 1956, deux garçons, Patrick et François, naîtront de leur union. Si la vie de Noëlla semble se dérouler naturellement, la jeune femme connaît d'importants problèmes de santé. Elle a la tuberculose. Elle est aussi marquée psychologiquement. Hantée par ses souvenirs de déportation, elle souffre d'épisodes de dépression. Difficile d'extérioriser sa douleur, tant ce qu'elle a vécu comporte d'insoutenable pour les autres. Ainsi, pour André, le passé de son épouse est insupportable. Il ne peut entendre le récit atroce de ce qu'elle a traversé et il verrouille la parole. C'est auprès de ses camarades de la DIR que Noëlla sort de sa morosité. Elle va d'ailleurs peu à peu s'impliquer dans la vie de la DIR et animer une section suisse. Elle luttera également contre le négationnisme et favorisera la libération de la parole, apportant elle aussi son témoignage.
Le 10 novembre 1962, à midi, les gendarmes de la brigade de la Madeleine-les-Lilles effectuent une visite de routine chez la mère de Jacques Vasseur. La porte n'est pas verrouillée. En entrant, les deux hommes entendent « C'est toi, maman ?» Ce jour-là, Jacques Vasseur, l'ex-gestapiste d'Angers, reclus depuis 17 ans dans une cache aménagée de la maison maternelle, est découvert. Âgé de tout juste 42 ans, affaibli par son isolement, il se terre en ces lieux sous le faux nom de Jean Delpierre. À la question des gendarmes sur cette identité, l'homme reconnaît immédiatement être Jacques Vasseur, recherché pour intelligence avec l'ennemi. On le décrit comme un homme ordinaire, mesurant 1m71, de corpulence moyenne, au visage ovale, au teint pâle, cheveux châtains, front droit, nez rectiligne, bouche moyenne et aux yeux marrons. Vasseur est né le 9 octobre 1920 à Valenciennes. Son père travaille comme cadre à la Banque de France. La famille s'est installée à Angers un peu avant 1940 et en 1942, Vasseur est engagé comme interprète par la Gestapo. Il parle en effet plusieurs langues, dont l'allemand, héritage d'une grand-mère maternelle allemande. Le livre « Des Angevins en résistance » dresse le portrait d'un homme intelligent, d'un niveau d'éducation supérieur. Il a fait HEC. Très vite, il acquiert la confiance de l'occupant et se fond dans le moule. Disposant d'une large liberté d'action, il participe à la traque des résistants, aux arrestations et aux tortures. Tant et si bien que ce sont 430 arrestations, 310 déportations et 230 morts qui lui sont attribuées. 1965. Trois ans après l'arrestation de Jacques Vasseur, son procès s'ouvre devant la Cour de sûreté de l'État au Palais de justice de Paris. Le 6 novembre 1965, Jacques Vasseur est condamné à la peine de mort. Précédemment à cette condamnation, dans une lettre du 2 novembre 1965, Noëlla demande sa grâce.
Monsieur le Président du Tribunal, le 21 octobre, j'ai été appelé à témoigner au procès de Jacques Vasseur. Je l'ai fait sans arrière-pensée. Dénoncer une fois encore les fautes dont s'était rendu coupable l'accusé et en même temps le système auquel il avait adhéré me semblait être un devoir absolu. Mais lors de l'audience, dérouté par la rapidité des questions qu'on m'a posées, bouleversé par les souvenirs douloureux qu'il me fallait revivre, je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire. Dans quelques jours, la phase finale du procès, le réquisitoire et la condamnation. Cette condamnation risque d'être, je le crains, la peine capitale. Devant une telle éventualité, je me sens tenu, en conscience, de vous exprimer ma pensée. Les horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m'ont sensibilisé à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité, tant physique que morale de l'homme, et j'ai rejoint les rangs de ceux qui pensent que s'il faut combattre l'erreur, nous n'en avons pas pour autant le droit de disposer de la vie de celui qui a erré. Qu'il faut lutter contre la maladie et non tuer le malade, en un mot, de ceux qui font campagne pour l'abolition de la peine de mort. Certes, Vasseur est coupable. Il faut le châtier. Encore est-il que ces 17 années de réclusion volontaire pourraient lui être comptées comme temps partiel d'expiation. Mais surtout qu'on l'amène à une prise de conscience de ses actes passés. Au repentir, je dois avouer que son impassibilité tant à l'instruction qu'au procès, m'ont mis très mal à l'aise. Qu'on le rééduque, qu'on l'oblige à se mettre d'une façon constructive au service de cette société qu'il a trahi autrefois. Qu'on essaie de ranimer la petite flamme humaine qui doit tout de même bien subsister en lui. Le fait d'avoir été une victime de l'accusé, d'avoir perdu dans cette terrible aventure d'il y a 20 ans un fiancé fusillé, 2 ans de ma jeunesse, passée en prison et au camp de concentration de Ravensbrück, ma santé, cela me semble-t-il me donnait le droit de vous dire ce qui précède. Si pour ces mêmes raisons, l'appel que je vous lance pouvait avoir quelque poids, je vous supplie, monsieur le président du tribunal, de le mettre sur le plateau de la balance. Noëlla Rouget.
Le 13 janvier 1966, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Vasseur. Il ne reste que la grâce présidentielle. Le 14 janvier 1966, Noëlla écrit au général de Gaulle.
Sachant qu'il est possible que cette cassation soit refusée et qu'alors le sort du condamné serait entre vos mains, il me semble devoir, si je veux être logique avec moi-même, vous présenter cette requête. Parce que je crois en Dieu, en qui je reconnais le seul maître absolu de la vie et de la mort. Parce que je crois en mon pays, à son esprit humanitaire, qui l'amènera bientôt, j'espère, par une réforme législative à abolir la peine de mort. Parce que je crois en vous, général, que j'ai suivi avec élan il y a 20 ans dans les rangs de la résistance. Et aussi, peut-être, au nom de la grande affection qui me lie à votre nièce Geneviève, je vous supplie, monsieur le président de la République, d'user, le cas échéant, de votre droit de grâce en faveur de Jacques Vasseur.
Février 1966, le général de Gaulle déclare la peine commuée en détention perpétuelle. Dimanche 13 février, la radio annonce la nouvelle. De Gaulle accorde la grâce présidentielle à Jacques Vasseur. Le 20 février, Noëlla envoie à Madame Yvonne Vasseur une lettre, la première d'une longue relation épistolaire. Elle y exprime d'emblée l'espoir que Jacques changera.
Je souhaite qu'il se fasse peu à peu de ce sursis de vie qui lui est accordé, quelque chose qui vaille la peine d'être vécu.
54 lettres seront échangées entre Noëlla et les Vasseur, mère et fils, entre décembre 1965 et décembre 1982. Des années plus tard, en juillet 2019, Noëlla, dont la mémoire s'effiloche depuis quelque temps, redit cependant avec force son humanisme, ses grands principes moraux acquis à Angers et la chance qui est la sienne de les avoir reçus de ses parents et de ses enseignants du pensionnat Saint-Lô.
J'ai appris à faire des choix, j'ai appris les valeurs, le dépassement de soi, à penser à l'entourage. Je suis très consciente de la juste valeur des choses.
Ce sont ces valeurs qui nourrissent nos positions à la peine de mort. Noëlla pense que Vasseur, lui, n'a pas eu la chance de recevoir ses valeurs. Une mère possessive et abusive, la violence de la guerre, des mauvaises rencontres l'ont amené à faire de mauvais choix. Si elle considère qu'il était sans doute un pauvre type, il ne méritait en aucune façon la mort. En revanche, elle imaginait qu'il pourrait changer, et bien qu'elle y ait cru un certain temps, il lui a fallu se rendre à l'évidence. Jamais Vasseur n'a demandé pardon pour ses actes, ni n'en a pris l'entière conscience. Dans un entretien radiophonique en 2013, Noëlla confirme.
J'aurais aimé qu'il manifeste davantage de regrets. Il s'est cherché des excuses plutôt qu'à reconnaître ce qu'il avait fait, et ça, c'était décevant.
Après sa libération et son installation à Heidelberg, Jacques Vasseur n'a plus jamais écrit la moindre lettre à Noëlla pour la remercier. Yvonne Vasseur non plus, du reste. Dès lors que Vasseur était libre, on n'avait certainement plus besoin des talents épistolaires de Noëlla qu'on pouvait désormais ignorer. Derrière la porte de la chambre de Noëlla, dans sa maison de retraite, un petit panneau mentionne les noms des personnes qui prennent soin d'elle. Parmi ceux-ci, celui de son infirmier, Vasseur. Noëlla, dans un grand éclat de rire, déclare
« Oui, il m'aura poursuivi jusqu'au bout, celui-là. » Noëlla est morte à quelques semaines de ses 101 ans, le 22 novembre 2020. Elle aura eu le temps de prendre connaissance du livre de Brigitte Exarchimonier et Éric Monnier, avec qui elle a noué au fil de ces 10 années de réelles relations d'amitié. Nous espérons que ces extraits vous donneront l'envie de connaître plus en détail le parcours de cette femme exceptionnelle. Cette émission a été préparée par Philippe et Guylaine. Au cours des pauses musicales, vous avez entendu des extraits de Verlaine de Charles Trenet, de Pavane de Gabriel Fauré, de L'affiche rouge de Léo Ferré et de Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Nous remercions Claude Michel pour le montage et vous disons à très bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission.